Bonjour à tous. Je ne suis pas docteur en histoire et philosophie, mais philologie. C'est une matière beaucoup plus humble, en fait, hein, beaucoup plus technique, mais je ne suis pas assez intelligent, sans doute, pour faire la philosophie. Alors, bien entendu, parler du sujet qui m'est attribué aujourd'hui en 30, 35, 45 minutes, si je ne suis pas sage, c'est impossible. Donc, je vous prie de m'excuser par avance si je fais quelques raccourcis, si je ne peux pas donner tous les éléments des démonstrations, et si je résume les choses, il y aura, je pense, une publication dans laquelle je pourrai... La première sera dédiée au contexte proche-oriental du texte de la Genèse, pas simplement pour montrer des jolies images et pour vous donner, pour faire un voyage dans l'Orient ancien, mais parce que c'est très important pour comprendre le texte. Ensuite, je tenterai de voir en quoi le texte de la Genèse est original, quelle est sa perspective propre, sa visée théologique. Et puis enfin, je dirai quelques mots de l'interprétation du passage, en essayant de présenter, peut-être pas toutes les vues qui existent sur le sujet, mais disons les principales et certaines des plus récentes. Alors, en ce qui concerne le contexte proche-oriental de Genèse 2, Genèse 3, tout ça c'est un ensemble, en fait il faut étendre à Genèse 1 à 11. On a remarqué, et maintenant c'est bien connu, qu'il existe de nombreux parallèles avec les textes retrouvés en Égypte et peut-être plus encore en Mésopotamie. Alors, il faut que j'appuie vers... Merci. Voilà par exemple l'épopée d'Atrasis, qui est peut-être le texte qui présente le plus de parallèles dans la trame narrative. Si on passe au tableau qui suit... que j'ai repris de texte d'un article de Daniel Harlow, on peut essayer de repérer une certaine similarité dans la narration elle-même. On parle d'abord d'un jardin qui est irrigué ou d'agriculture par irrigation, Dieu plante un jardin, des êtres humains primitifs, qui ne sont pas tout à fait des êtres humains normaux, sont créés pour travailler à la place des dieux en Mésopotamie et puis travailler, servir le jardin dans le récit de la Genèse. Ces hommes sont créés à partir d'argile, mêlés à la chair et au sang d'un dieu, tandis que l'homme dans la Genèse est créé à partir de la poussière de la terre. Les hommes, d'un côté, sont implicitement immortels, et de l'autre côté, l'homme, dit-on, est potentiellement immortel. On pourra en parler plus longuement parce que l'arbre de vie, c'est un sujet difficile. Il y a bien sûr l'institution du mariage, du couple, une sorte de rébellion de la part des hommes contre la souveraineté des dieux. Plus exactement, les hommes dérangent les dieux par le bruit qu'ils font en travaillant. Je suis allé y penser avant, mais c'est comme ça. Parce que de l'autre côté, l'homme désobéit formellement à Dieu, il lui déplaît. Des deux côtés, nous aboutirons à des sanctions, à des mesures qui conduisent à la diminution de la durée de la vie. Et des deux côtés, on aura un récit du déluge avec de nombreuses ressemblances. Si vous achetez la Nouvelle Bible Second version d'étude, il y a un tableau qui récapitule les ressemblances entre les deux récits du déluge. Alors vous voyez, ça c'est un exemple d'un texte qui présente plusieurs éléments dans la séquence même des événements ressemblant à ce que l'on retrouve dans la Genèse. En même temps, on ne trouve pas tout. Il faut en fait regarder l'ensemble des textes dont nous disposons dans le Proche-Orient ancien, pour retrouver toute une série de motifs supplémentaires. Et dans le tableau suivant, qui n'est pas bien passé parce que ma version est trop en avance pour ordinateur, ma version de PowerPoint est un peu... voilà. Bref, on peut récapituler très facilement un certain nombre de motifs qui apparaissent dans la Genèse et qu'on retrouve dans divers mythes. Par exemple, le thème d'un jardin qui se trouve à l'est, à l'Orient, la création de l'homme à partir de l'argile, de la poussière... l'insufflation d'un souffle de vie dans l'homme, ça se trouve aussi. Le thème de l'image de Dieu, Jacques Duchamp en parlera davantage, mais on peut trouver presque les mêmes termes dans des textes proche-orientaux. Le fait que l'homme soit créé pour travailler, la nudité pour décrire l'état primitif de l'homme, puis l'habillement, le rôle d'un serpent, le thème de devenir comme Dieu dans l'épopée de Gilgamesh, et même la notion d'un arbre de vie, voire d'une plante dont la consommation confère l'immortalité. On trouve également le thème l'image d'un serpent qui va être réduit à ramper sur son ventre, on a presque cette image-là. Le thème de la femme créée à partir d'une côte, il y a peut-être un jeu de mots qui reflète un mythe sumérien. L'accouchement sans douleur, initialement. Et puis les chérubins. Tout cela, ça se retrouve dans une multitude de textes du Proche-Orient ancien. Il faut bien noter qu'on ne trouve pas tout cela dans un même texte. Il est donc très difficile de dire que l'auteur de Genèse 2, 3, etc., emprunte tout cela à un même mythe qu'il voudrait suivre. Nous ne sommes pas en mesure de dire cela. En revanche, il est très peu probable que l'auteur de ces passages-là dans la Bible n'ait pas été au courant de tous ces motifs. C'est au-delà de ce qui serait acceptable, je pense, comme hasard. Alors je reviens sur quelques points brièvement. Prenons par exemple le mythe d'Adapa. Adapa est un sage demi-divin, à moitié divin, qui monte au ciel. Ce qui est intéressant, c'est que ce sage, on lui propose de manger de la nourriture de vie. Et il refuse au prétexte qu'un dieu, le dieu Ea, lui a interdit. Et les dieux lui disent, mais est-ce que l'homme ne sera pas immortel? Pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Et il ne mange pas parce que ça lui a été interdit par un dieu. Vous voyez, c'est quelque chose dont on retrouve sous une autre forme, bien sûr, le pendant dans le récit de la Genèse, un dieu qui va interdire l'accès à l'arbre de vie dont la consommation aurait, semble-t-il, conduit à l'immortalité. En ce qui concerne la création de la femme, il est intéressant de noter que dans la langue sumérienne, il existe un jeu de mots parce que le même syllabe, si vous voulez, le même signe, symbolise à la fois, signifie à la fois la vie et la côte. Il y a une dièse qui s'appelle Ninti, dont le nom peut être interprété comme la dame de la côte ou la dame de la vie. Alors cela pose la question de savoir si l'auteur de Genèse 2-3 avait accès à toutes ces connaissances. Certains commentateurs, comme l'un des meilleurs, Gordon Wenham, estiment que c'est tiré par les cheveux que de penser que l'auteur de la Genèse pouvait avoir accès à cela. Il me semble qu'il faut être plus prudent que cet avis, tout simplement parce qu'on sait très peu de choses, et que le peu de choses que nous savons aujourd'hui sur les scribes qui écrivaient au Levant, Israël-Palestine, si vous voulez, Canaan, le peu de choses que nous savons conduit plutôt à réévaluer à la hausse leurs connaissances. On a retrouvé au nord de Canaan, à Ougarit, des tablettes qui donnent un extrait de l'épopée de Gilgamesh. De même à Megiddo, au nord d'Israël. Et récemment, à Ashkelon, donc dans la bande de Gaza, si vous voulez, on a retrouvé une sorte de dictionnaire sumérien acadien. C'est fragmentaire, mais ça laisse penser que les scribes du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, en l'occurrence, au sud de la Palestine, avaient un accès à des langues comme le sumérien. Donc il faut être prudent avant d'imaginer que toutes ces choses-là n'étaient pas accessibles à l'auteur de la Genèse. La création de la femme, donc, peut faire écho à un jeu de mots par rapport qui existait déjà en sumérien. Quant à la création de l'homme, non seulement on trouve... Alors, je crois que j'ai une diapositive qui est passée. Non seulement on trouve l'idée que l'homme a pu être formé à partir de l'argile, de la terre, mais en plus, on a une multitude d'options dans cette visée-là. Dans certains mythes, l'homme est créé purement et simplement à partir de l'argile. Dans d'autres mythes, il est créé par un mélange d'argile et puis de la chair et du sang d'un dieu qui a été immolé. Dans d'autres mythes encore, c'est créé seulement à partir du sang. Et puis il y a une imagerie encore différente selon laquelle l'homme est comme de la végétation qui pousse et qui craquelle la terre, qui surgit de terre. Vous voyez qu'il y a une multitude d'images qui sont utilisées au Proche-Orient ancien. On a même en Égypte la notion de l'insufflation d'un dieu ou d'une déesse qui souffle quelque sorte dans les narines de l'homme qui vient d'être modelé, une sorte de souffle de vie. Peut-être que la Genèse fait écho à cela. Mais il y a plus. Sans trop anticiper sur ce que dira Jacques Buchol, en lui laissant l'essentiel à dire sur le sujet, j'espère, il faut savoir qu'on a comparé récemment le fait que l'homme soit créé en image de Dieu, comme une image de Dieu, à des rituels qui existaient en Mésopotamie. Je m'explique. Quand le texte dit « l'homme a été créé en image de Dieu, à la ressemblance de Dieu », il utilise des mots qui peuvent être traduits comme cela, mais qui peuvent signifier, pour l'un des deux, qui peuvent viser une image en tant que statue, une image réelle. Or, on sait que, dans plusieurs textes de l'Orient ancien, les rois étaient considérés comme l'image, dans ce sens-là, avec quasiment le même mot, des dieux. Il arrivait même que les rois postent, à certains endroits de leur territoire, une statue qui les représentait. Et plus que cela, on a retrouvé trace de rituels qui s'appellent rituels d'ouverture ou de purification de la bouche, où l'on prenait des statues de dieux qui avaient été formées et où, par un certain rituel, on espérait que les orifices, comme la bouche, les narines, s'ouvraient et c'était un processus de vivification par lequel la statue en question devenait une représentation vivante du dieu qui ensuite pouvait être habillée, nourri et qu'on pouvait mettre dans un sanctuaire. Il n'est pas impossible, difficile de le prouver, mais il n'est pas impossible qu'il y ait un écho de cela dans la Genèse, de manière malicieuse. Peut-être que l'auteur a voulu représenter l'homme comme créé en image de Dieu, en représentant vivant de Dieu, qu'il place dans le jardin, dont je dirai dans quelques minutes, qu'on peut le comparer à un sanctuaire. Au final, on a un nombre impressionnant de parallèles qui peuvent être dressés entre les textes mésopotamiens et égyptiens et le récit de la Genèse. Cependant, les différences sont énormes, je vais en parler un petit peu plus sur le fond dans quelques minutes, mais ne serait-ce que sur la forme, nous sommes incapables de retrouver un texte qui présente toutes les caractéristiques de la Genèse. Nous sommes incapables de dire le texte de la Genèse s'est vraiment inspiré de tel passage, de tel tablette de l'Orient ancien. Donc il faut être prudent dans les rapports que l'on voit. Il est aussi improbable de dire que l'auteur ne connaissait pas au moins quelques mythes de l'Orient ancien que d'affirmer qu'il s'est vraiment inspiré du mythe d'Atraasis, par exemple, ou de l'épopée de Gilgamesh. Il faut être prudent sur ce sujet. Alors j'avance. Voilà par exemple une image d'un saut cylindre qui était déroulé sur de l'argile. Et sur cette image, vous voyez de part et d'autre d'un arbre de vie l'équivalent des chérubins dans la Genèse, les chérubes, des êtres ailés. Ce genre de représentation qu'on trouve non seulement dans les textes, mais également en iconographie. C'est quelque chose de très commun. Pareil avec le serpent, l'arbre de vie, la nudité, la femme, etc. Dernière chose à dire sur ce thème-là, les généalogies de Genèse 1 à 11, je suis obligé d'en parler parce que c'est tout un ensemble à prendre comme tel, les généalogies de Genèse 1 à 11 trouvent également des parallèles, bien que imparfaits, dans l'Orient ancien, dans les listes royales. Il ne s'agit pas de généalogie d'êtres humains quelconques, mais de succession, en quelque sorte dynastique, de rois qui régnaient, sur des durées astronomiques, 36 000 ans, 12 000 ans, avec une césure qui intervient au moment du déluge. Alors, je vais donner un petit tableau pour résumer cela. On trouve à peu près la même séquence si on considère les narrations, les listes royales et ce qui se trouve dans la Genèse. Nous avons d'abord la création de l'homme, puis une période qui est couverte par des listes royales. En général, il y a 10 rois, ce qui pourrait correspondre, il y a beaucoup de ressemblances formelles, avec la généalogie de Genèse 5, avant le déluge. Puis, les hommes dérangent les dieux parce qu'ils les perturbent par leur bruit, dans la Genèse, parce qu'ils pêchent, et le déluge intervient. Suite à cela, on a un nouveau départ. Et, en termes de liste royale, on a à nouveau une généalogie avec des durées de vie qui sont encore impressionnantes, mais qui ont été réduites. Le schéma global, création, développement de l'humanité, parfois exprimé comme une liste royale, déluge et un nouveau départ avec liste généalogique, grosso modo, se retrouve dans la Genèse, aurait son équivalent avec création, développement de l'humanité en général, pas simplement des rois, déluge, et un nouveau départ pour l'humanité, avec de part et d'autre du déluge, deux généalogies à 10 étapes. Si l'on tient compte donc de cela, ce que l'on a comme récit, des listes royales, on retrouve une grande partie des ingrédients qu'il y a dans la Genèse, avec bien sûr de grandes différences, hein, monothéisme, transcendance de Dieu, etc. Tout cela impressionne beaucoup les auteurs qui s'intéressent au début de la Genèse, et certains vont un petit peu trop loin. Il faut prendre en compte l'originalité et la perspective propre à la Genèse. C'est mon second point. Il faut d'abord noter donc des différences qui pourraient même être des traits polémiques. L'homme n'est pas créé comme un mélange d'argile et de la chair et du sang d'un dieu. L'homme est créé à partir de la poussière et d'une insufflation de la part de Dieu. Mais ce n'est pas un mélange homme-dieu. Le serpent n'est pas source de fertilité. Il est trompeur dans le récit de la Genèse, etc., etc. Il y a des différences. La différence peut-être principale, c'est que la Genèse innove. Elle parle d'un arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un trait qu'on ne retrouve pas au Proche-Orient ancien. Ce n'est pas anecdotique. En fait, cela est comme une mise en abîme, si vous voulez, de la différence principale du récit de la Genèse, qui est de proposer un récit des origines du péché. En tout cas, un récit d'un premier péché qui conduit à la situation actuelle de l'homme devant Dieu. Les Mésopotamiens étaient parfaitement conscients du péché, ils demandaient pardon aux dieux dans leurs prières, mais ils n'ont pas de récit où l'on présenterait l'introduction, en quelque sorte, du péché. Ils n'ont pas de récit où l'homme serait passé d'un état où il se trouvait dans le jardin d'Éden, en communion avec Dieu, à un état où ils sont exclus de sa présence directe. Ça, c'est un trait propre à la Genèse. Et si le tableau suivant passe, oui, il est passé, je peux vous suggérer qu'en fait, ce trait propre à Genèse 2-3 est en fait, gouverne en fait la logique d'ensemble de Genèse 1 à 11. Dans ce tableau, j'ai mis à gauche les principales sections de Genèse 1 à 11. Et à droite, j'ai noté des thèmes qui reviennent en parallèle. Vous avez d'abord la création, le premier homme, la faute, la première faute, le premier péché, des problèmes entre frères, c'est Caïn et Abel. Puis, la population, l'humanité se développe à partir des trois fils d'Adam. Ensuite, on a une généalogie en 10 étapes, assez stricte. Et puis, une crise qui va déboucher sur le déluge. Mais le déluge lui-même est présenté comme une sorte d'annulation de la création, l'eau qui recouvre tout, qui efface presque l'œuvre de Genèse 1. Puis il y a une sorte de recréation au moment de la décrue. On a des échos très nets dans le texte, c'est ce que je n'ai pas le temps de vous prouver ici. Puis on a à nouveau un premier homme, en quelque sorte, auquel est donné le même mandat, la même idée de dominer la terre, etc. Il est aussi en image de Dieu, mais très vite, à peine sorti de l'art, si je puis dire, l'homme va fauter à nouveau. Il va y avoir des échos de la chute de Genèse 3 dans les termes mêmes qui sont employés dans Genèse 9, l'épisode de la nudité de Moïse. Et aussitôt, dans le même temps, dans la foulée, des échos au problème de Caïn et Abel, des nouveaux problèmes entre frères. Après quoi, l'humanité, la population se redéploie encore à partir des trois fils du premier homme, si je puis dire, et on a à nouveau une généalogie en 10 étapes qui ressemble énormément à celle de Genèse 5. L'ensemble de Genèse 1 à 11 est donc présenté comme un diptyque, deux étapes avec les mêmes thèmes qui se retrouvent dans le même ordre en parallèle. Or, la pointe de cette structure, ce vers quoi cela nous mène théologiquement, c'est l'idée que le premier homme a péché et que même en effaçant tout cela et en donnant une seconde chance à l'humanité à travers un nouveau premier homme, si l'on peut dire, Noé, eh bien on retombe dans le péché. Il s'agit d'une pédagogie de l'échec. Après cela, on note une dissimilarité à la suite du deuxième panneau du diptyque qui est gouverné par l'histoire de Noé et de sa descendance, nous n'aboutissons pas à une crise et à un déluge, à une sanction. Tout cela est comme ajourné pour la fin des temps, si on peut dire. Nous aboutissons à l'appel fait à Abraham. Dieu prend les choses en main, et c'est la descendance d'Abraham qui mènera, c'est ce que nous dit le reste de l'Écriture, à un nouvel Adam, un vrai nouvel Adam. Noé était en fait un faux nouvel Adam, c'était un faux nouveau départ. Ça, c'est dans la logique de Genèse 2 à 3, et je pense que quand Paul compare Christ, descendance d'Abraham, à un nouvel Adam, il ne fait que se saisir de ce qu'on trouve déjà dans Genèse 2 à 3. Alors cela vous montre que le thème du péché et de la faute, c'est vraiment ce qui gouverne la structure d'ensemble de Genèse 1 à 11 et pas seulement Genèse 2 à 3. C'est important pour l'interprétation finale que je proposerai de ce texte-là. C'est important également parce que c'est le trait propre à la Genèse. C'est ce qu'il y a de particulier. Je dois dire quelques mots pour vous signaler qu'il y a une sorte de consensus qui commence à se dégager pour montrer que non seulement Genèse 3 présente l'homme comme expulsé du Jardin d'Éden, mais en plus, il présente cela, le texte présente cela sous la forme d'un homme, qui serait presque une sorte de prêtre, expulsé d'un sanctuaire. On a en fait toute une série de parallèles entre le Jardin d'Éden et le tabernacle, puis le temple. On peut se demander, c'est la poule ou l'œuf, qui a inspiré l'autre ? Mais en tout cas, les choses sont vraiment faites exprès pour qu'il y ait des correspondances entre le Jardin d'Éden et ce que l'on trouvera dans le tabernacle, puis dans le temple. Je cite rapidement, bien sûr, les choses. D'abord, par définition, le Jardin d'Éden, c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme. C'est le lieu où Dieu peut être présent, marcher, se promener, parler à l'homme librement. Dans le Jardin d'Éden, comme dans le temple, voire Ézéchiel 40, il y a une entrée à l'est. Le Jardin d'Éden est gardé par des chérubins, ce qui était le rôle même des chérubins dans les temples, et il y en a plein dans le récit de Genèse 2, les récits des rois qui décrivent le temple. Toute la décoration presque du temple est faite pour rappeler un jardin. Relisez les textes sur le tabernacle et sur le temple. On vous parle de palmes, de fleurs, de grenades, de lys. Tout est présenté pour rappeler une sorte de végétation. L'homme était censé servir et garder le jardin. Cette expression ne se retrouve ailleurs que pour le rôle des Lévites vis-à-vis du temple. La rivière qui sort du Jardin d'Éden, ça se retrouve, il y a une allusion dans Ézéchiel 47, où une rivière sort de dessous le temple. Et enfin, la structure même de la terre, on a l'extérieur d'Éden, Éden, le jardin, cette structure où on voit une sorte de proximité croissante avec Dieu, cela rappelle ce que l'on retrouve dans les temples. Il y a donc un consensus émergent parmi les auteurs. Alors, je peux citer Gordon Wenham, John Walton, Greg Beale. Je crois que j'ai mis une photo de son livre. C'est le livre où on trouve le plus de détails sur le sujet. Certains ne sont pas probants, mais il y a tous les arguments possibles sur le sujet. Et puis, Desmond Alexander, etc., etc. En résumé, ce qui semble être la particularité de Genèse 2 et Genèse 3, c'est de présenter l'homme comme créé en image de Dieu, en représentant vivant de Dieu, en quelque sorte, dans un jardin qui est presque l'équivalent, qui présente les traits essentiels d'un sanctuaire, et qui, par sa faute, va être expulsé du jardin. Un événement fondateur à partir duquel l'humanité vit hors du Jardin d'Éden, hors de la présence immédiate de Dieu. Et c'est sans doute le point le plus important de ce texte. Il y en a d'autres, bien sûr, sur l'homme et la femme, etc. Ce qui est également admis par la plupart des auteurs aujourd'hui, c'est que le texte est rempli d'éléments figuratifs, autrement dit des éléments qui ne sont pas faits dans l'esprit même du texte pour être pris à la lettre. On peut citer le serpent qui parle, et c'est ainsi que l'interprétera le Nouveau Testament. Dans l'Apocalypse, on interprète ce serpent comme le serpent ancien, le diable. On ne le prend pas littéralement. Ils ont ainsi des chérubes qui, dans l'ensemble de la Bible, ne semblent pas désigner des êtres autres que symboliques. La localisation même du jardin d'Éden n'est pas évidente. Quand on vous dit qu'il était situé à l'Orient, on pourrait aussi comprendre à l'origine. Il y a probablement, on ne peut pas le prouver, un jeu de mots de la part de l'auteur. On a toute une série, alors Henri Blocher a très bien fait la démonstration de Révélation des origines, donc je ne peux pas tout reprendre, mais je ne peux pas réinventer, simplement redire ce qu'il a dit dans le temps imparti. Mais on a vraiment de très bonnes raisons de penser qu'il y a énormément d'éléments figuratifs dans ce texte. L'idée même de la création de l'homme à partir de poussière est très certainement à prendre dans ce réseau d'éléments figuratifs. Le texte lui-même peut suggérer que l'auteur ne prenait pas cela au pied de la lettre et qu'il n'entendait pas qu'on le fasse, même si certains le font aujourd'hui. Après, si on prend les choses littéralement, l'homme à partir de poussière est constitué comme un être vivant avec toute la complexité du corps humain, tout ce qui le constitue. Mais même après cela, que l'homme aura fauté, Dieu continue de lui dire « tu es poussière ». L'homme est encore qualifié de poussière après avoir été constitué en être vivant avec les os, la chair, les organes, etc. Et c'est ainsi que parleront d'autres auteurs dans l'Écriture. Ésaïe, dans le chapitre 64, affirme « nous sommes l'argile, et Dieu est le potier ». Il reprend la même image en l'actualisant. C'est encore vrai, on peut encore le dire, bien évidemment de manière métaphorique, des êtres humains actuels. Ésaïe nous désigne également comme des pots en argile. Et en même temps, il dit à Dieu, tu nous as façonnés dans le ventre de notre mère. Voilà, il dit les deux simultanément. Donc il semble bien que les auteurs se sentaient assez libres à l'égard de tout cela. Ézéchiel lui-même se sentira assez libre à l'égard de la symbolique que l'on trouve dans Genèse 2 et 3, puisqu'il comparera le prince de Tyr à un sceau, même un chérub du jardin d'Éden, et il comparera le pharaon à un cèdre qui est plus beau que les arbres du jardin d'Éden qui sont jaloux de lui. Vous voyez qu'il y a une certaine liberté qui est prise à l'égard de ce texte, non pas en tant que pour se distancer de ce que dit le texte, mais simplement parce qu'on avait reçu le texte comme quelque chose qui ne se prend pas à la lettre. On retrouve la même chose dans l'Apocalypse, qui répond et qui reprend plusieurs thèmes, l'arbre de vie, le serpent, etc., de manière symbolique, qui semble être en quelque sorte du même genre littéraire. Alors j'en viens, parce que je pense qu'il faut que j'avance, au sujet de l'interprétation. C'est vraiment délicat, il faut être modeste sur ce sujet. Mais je vous signale plusieurs pistes qui ont été avancées et qui sont encore aujourd'hui. La première lecture qui se fait encore aujourd'hui, c'est une lecture littérale de Genèse 2 et 3. Dans certains cercles, spécialement aux États-Unis, c'est encore populaire, il faudrait vraiment croire qu'il y avait un serpent qui parlait à Adam, à Ève en premier d'ailleurs, que l'homme a vraiment été modelé à partir de la poussière, etc., qu'il y a vraiment un jardin d'Éden qu'il faut localiser, etc. La difficulté avec cette interprétation, comme je l'ai dit, c'est que le texte lui-même suggère qu'il est rempli d'éléments figuratifs. Et c'est ainsi que semblent bien l'avoir compris d'autres auteurs bibliques jusqu'à l'Apocalypse. Donc c'est une interprétation qui est encore populaire dans certains cercles, mais qui n'est pas vraiment prise au sérieux par les exégètes les plus qualifiés. Une sorte de variante, mais plus complexe, a été proposée récemment par Denis Lamoureux, qui fait beaucoup de travaux intéressants sur ce sujet. Lui estime que le texte porte des vérités théologiques, donc sur l'homme, la réalité de l'homme face à Dieu, etc., tout en laissant le Saint-Esprit l'aurait en même temps laissé l'auteur humain s'exprimer dans le langage scientifique de l'époque. Autrement dit, l'auteur croyait vraiment que l'homme a été façonné à partir de l'argile, etc. Il prend ses motifs, en fait, littéralement, en considérant, alors, j'ai repris un de ses schémas, qu'il faut distinguer entre le message de foi, vous m'excuserez pour l'anglais, enfin, dans cette église, peut-être que ça passera bien, et puis, ce qu'il appelle, disons, une manière de représenter les choses, un revêtement, un véhicule, qui ne doit pas, lui, être compté parmi ce qui serait sans erreur, inhérent, l'auteur céleste, le Saint-Esprit, se serait accommodé à nous, ce qui est vrai dans une certaine mesure, de telle manière que l'auteur humain pouvait s'exprimer en des catégories de son époque, la science de son époque, même si c'est faux, d'après ce que nous savons aujourd'hui, mais pour véhiculer des vérités théologiques qui, elles, sont vraies, sont inhérentes. La difficulté avec cette interprétation, c'est, comme je l'ai déjà dit, que le texte lui-même ne veut pas que l'on prenne la création de l'homme à partir de l'argile, typiquement, comme quelque chose de littéral. Je pense que l'auteur de la Genèse se retournerait dans sa tombe, ou il tomberait des nues, s'il voyait que nous prenons ça de manière littérale. Nous prenons le risque d'être dupes d'une image qui n'était pas faite pour duper qui que ce soit, en fait. Donc je pense que, tout en insistant sur des choses intéressantes, cet auteur ne va pas jusqu'au bout d'un constat qu'il fait également, qui est que la Genèse elle-même nous donne des indicateurs pour que on ne prenne pas au pied de la lettre ce qui n'est pas fait pour être pris au pied de la lettre. Une interprétation encore plus récente de Peter Hens, dans un livre qui est sorti ce mois-ci, en fait, The Evolution of Adam, se base sur un parallélisme qui est sans doute au moins en partie réel. Peter Hens pense que l'on trouve suffisamment de parallèles entre l'histoire d'Israël et celle de Adam en Genèse 2-3 pour dire qu'en fait le texte ne parle pas des origines de l'humanité et qu'il parle des origines d'Israël. En effet, alors, je vous ai mis ça dans un tableau que je reprends de ce qu'il dit lui-même, hein. On aurait une similarité entre la création d'un côté après avoir vaincu le chaos, je ne suis pas d'accord mais je reprends son propos, création de l'univers puis de l'homme, puis l'homme est placé dans un jardin luxuriant. Suite à sa faute, enfin, il reçoit d'abord une loi qui est l'interdiction de manger de l'arbre, etc. Et puis il est expulsé. De la même manière, Israël est en quelque sorte créé lors de l'Exode, ce qui est vrai en tant que peuple. Hein. Puis il est installé dans une terre luxuriante, vous savez, la terre promise, hein, qui regorge de lait, qui découle de lait et de miel. Il reçoit une loi, bien sûr, la Torah. Et comme il ne la respecte pas, il est expulsé, c'est l'exil. Alors, il est vrai qu'il y a des parallèles de cet ordre-là entre l'expulsion du Jardin d'Éden et l'expulsion de la terre d'Israël. C'est quelque chose qui, en fait, est déjà bien connu en théologie biblique. C'est quelque chose qui a déjà été mis en évidence dans d'autres ouvrages. Il y a une homologie entre les deux. Mais il y a une homologie entre beaucoup de choses, et l'exil et d'autres catégories théologiques. Il y a beaucoup d'éléments typologiques comme ça dans l'Écriture. Donc, cette thèse selon laquelle il faudrait limiter l'interprétation de Genèse 2-3 à une sorte de métaphore, de parabole sur les origines et les premiers temps de l'histoire d'Israël est loin d'être suffisante. Il est évident quand on lit la Genèse que l'auteur s'est exprimé dans des catégories qui correspondent à la création de l'humanité. Il est évident qu'il présente cela en préambule à l'histoire d'Israël. On se situe avant Abraham. Donc tout cela est fort improbable et c'est largement insuffisant, même si certains proposent cette théorie. Il y a un élément juste, mais c'est déjà connu en théologie biblique, ça ne suffit pas du tout à en faire une explication de Genèse 2-3. Alors, je crois qu'après, c'est pas encore. Ensuite, je dois mentionner l'interprétation qui est fréquente dans certains milieux, qui est l'interprétation dite mythologique. L'idée serait qu'en comparant Genèse 2-3 à ce qu'on trouve dans l'Orient ancien, on se rend bien compte qu'on a affaire à un mythe et que ça n'est pas à prendre vraiment au sérieux. En réalité, on pourrait le lire comme un récit qui sert d'archétype, de stéréotype pour le dire moins bien, c'est-à-dire que chaque être humain, chaque couple si on veut, peut se reconnaître dans Adam ou dans Ève. Ce récit ne servirait qu'à, finalement, figurer la situation de tout homme face à Dieu, qui, à cause du péché, se trouve séparé de Dieu. Alors ça ne paraît pas non plus suffisant, pour plusieurs raisons. D'abord, il me reste combien de temps ? 3 minutes. D'abord, il est évident dans la Genèse que Adam et son histoire sont placés au début d'une narration. C'est présenté comme les premières étapes de toute une histoire. Adam est présenté comme le premier maillon d'une généalogie. Et bien plus, comme, alors, j'avais essayé de le montrer dans le tableau en question, l'histoire d'Adam et Ève n'est pas présentée comme reléguée dans un temps mythique, qui serait une sorte de symbole universel de ce qui se passe en tout temps. C'est présenté comme la première étape d'une histoire, avec une faute qui va être, d'une certaine manière, répétée. Donc, quoi qu'on pense, la logique de Genèse 1:11 me semble suggérer que les choses sont présentées comme une première étape dans un temps. Dans le temps, alors préhistoire, ce qu'on veut, proto-histoire. Mais il est difficile, sinon impossible, de lire le récit de Genèse 2:3 tel qu'il se présente et tel qu'il est inscrit dans le reste de la Genèse comme un récit purement archétypique. J'aurais d'autres choses à dire sur le sujet, mais j'avance. L'interprétation qui paraît la plus collée avec le texte a déjà été proposée depuis longtemps par Henri Blocher, par exemple, typiquement. C'est ce que j'appellerais l'interprétation historico-parabolique, faute de mieux. C'est simplement reconnaître que le début de la Genèse use d'un genre littéraire que l'on connaît déjà. Certains sont surpris de la présence de langage figuratif et estiment qu'à ce compte-là, il faut tout prendre de manière figurative. C'est vrai dans certains récits. Il y a des paraboles où tout est figuratif. Mais il y a également largement dans l'écriture la présence d'un type de texte où l'on parle de personnages historiques, où l'on évoque même des événements historiques, mais de manière parabolique. Je peux vous renvoyer pour cela à ce que l'on trouve dans le livre d'Ézéchiel, typiquement Ézéchiel 16, 23, où le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda, sont présentés comme des sœurs, qui ont un père, une mère, etc. Et l'une d'elles va, enfin, la prostitution, etc. Vous avez là des réalités, des choses qui ont vraiment existé, des royaumes qui existent vraiment, mais qui sont présentés comme un frère et une sœur. Pardon, comme deux sœurs. Ça, c'est un exemple parmi bien d'autres. Ce qui est encore plus clair, c'est ce que l'on trouve dans l'Apocalypse, qui fait réellement pendant à Genèse 2:3 et qui reprend certaines de ces images. On a des choses réelles. Un vrai Dieu, un vrai diable, un vrai agneau qui représente Christ, etc. Mais avec des figures qui sont employées pour les représenter, celle d'un dragon par exemple, etc., etc. Autrement dit, une ossature historique des personnages qui existent vraiment, avec des événements qui sont réellement passés, mais tout cela présenté de manière très libre avec des images et un revêtement figuratif, c'est quelque chose qui est parfaitement bien attesté dans l'écriture. Et il me semble que c'est comme cela que l'on doit lire Genèse 2 à 3. Le récit lui-même et tout le reste de la Bible vous suggèrent qu'il y a vraiment eu un Adam, vraiment eu une Ève, et en même temps que ce qui est décrit, le jardin lui-même, les arbres, le serpent, tout cela est figuratif, et qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Alors c'est peut-être un petit peu complexe pour nous, mais c'est quelque chose qui existe dans l'écriture. Il reste une dernière question, qui est la question à 1000 dollars, ou 1000 euros. Jusqu'où va le figuratif ? La grande question, évidemment, c'est celle de l'origine de l'homme. Lydia en a parlé tout à l'heure. Que vont-ils penser de tout cela ? Certains essaient de situer l'homme. Alors, je pense que Denis Alexander nous parlera très bien de tout cela tout à l'heure, et je me réjouis de l'entendre sur ce sujet. Certains essaient de situer l'homme alors, au paléolithique, au néolithique, etc. Et c'est quelque chose qui me paraît légitime. On peut se poser la question. Si l'Écriture parle d'un vrai Adam qui a vraiment existé, on peut essayer de le situer. En même temps, il faut se placer un instant dans la perspective d'un auteur inspiré, de l'Orient ancien. Il est peu probable, a priori je dis, que Dieu ait voulu exprimer les choses dans des termes qui nous conviendraient nous aujourd'hui. Il est peu probable qu'il ait voulu révéler à son auteur sacré qu'il y a une période appelée paléolithique ou une période appelée néolithique et que tel ou tel personnage est à situer à ce moment-là. Autrement dit, le texte n'est pas écrit pour satisfaire notre curiosité moderne. Et les tensions, les difficultés que l'on peut avoir entre le texte tel qu'il s'exprime et les données de la paléontologie, la difficulté que l'on peut avoir à faire coller les deux ou à faire entrer l'un dans l'autre, sont assez comparables, à mon avis, à ce qui se passe quand on essaie de comparer, par exemple, les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, qui, sans se contredire, s'expriment différemment, avec parfois une chronologie différente. Et on a parfois de la difficulté, même si ce n'est pas impossible, à les harmoniser, à remettre ça dans l'ordre. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ils ont chacun leur propre logique. C'est nous qui, après coup, essayons de les mettre en ordre. Ça n'est pas impossible, mais ce n'est pas quelque chose d'évident. Alors, de la même manière, il est possible, mais alors là, c'est vraiment très difficile à assurer, que le Seigneur ait voulu donner à son auteur inspiré je reprends ce qui est dit dans le livre d'Henri Blocher à la toute fin de son appendice, il est possible que l'auteur inspiré ait bénéficié d'une vision comme d'un raccourci imagé, où il ne faudrait pas prendre les liens de filiation entre Adam et Ève, Cain et Abel, de manière littérale. C'est un point d'interrogation. Et c'est normal parce que le texte n'est pas là pour nous parler de ces choses-là. Ça n'est pas inconcevable, et donc pas inconcevable d'imaginer que le texte n'affirme pas que toute humanité descend d'Adam et Ève. C'est difficile, c'est délicat, et c'est normal que ce soit délicat. Si on voulait chercher des indices de cela dans le texte, il y en a peut-être. Peut-être que le fait que, en même temps que la famille Adam, Ève, Cain et Abel, il y a apparemment d'autres personnes qui risquent de tuer Cain. On se demande également où se trouve la femme de Cain. Toutes ces choses-là sont peut-être simplement l'indice que le texte ne prétend pas nous livrer une vision globale de l'humanité à cette époque-là. Peut-être. Alors bien sûr, le texte dit que Ève est la mère de tous les vivants. Mais en même temps, au chapitre suivant, il parle de père pour ceux qui vont inventer la métallurgie, la musique, etc. Un tel fut le père de ceux qui jouent du chalumeau. Et quelques versets avant l'endroit où on dit que Ève est la mère de tous les vivants, on parle de la descendance d'Ève en opposition avec la descendance du serpent, et ça désigne manifestement deux parties de l'humanité qui vont s'opposer. Autrement dit, là, l'auteur n'a pas eu peur de parler d'une descendance d'Ève, juste avant de dire c'est la mère de tous les vivants, qui est en fait une descendance spirituelle qui ne couvre pas toute l'humanité. Et puis, la suite de la Genèse, dans les chapitres 5, 11, etc., n'est certainement pas à prendre comme des généalogies littérales. Et je pense que l'auteur nous donne des indices pour cela. Les chiffres astronomiques, on trouve ça en Mésopotamie, ça n'était certainement pas fait pour être pris au pied de la lettre. On dit que l'auteur se sent assez libre vis-à-vis des liens de filiation. Ça reste un point d'interrogation, mais je vous laisse là-dessus. Merci de votre attention.